grand reportage à présent avec un témoignage exclusif aujourd'hui, celui de l'un des rares survivants des camps de la dictature Khmer Rouge au Cambodge. 30 ans après la fin du régime, s'est ouvert, vous le savez, ce matin, le procès de l'un des acteurs de la tragédie, l'ancien directeur d'S21, le camp de Tuol Sleng près de Phnom Penh. Peu de victimes ont survécu à la machine de mort mise en place par Pol Pot et ses sbires entre 1975 et 1979. Soum Riti en fait partie. Il a été détenu dans l'ancienne prison de Siem Reap, non loin des temples d'Angkor. Sophie Malibo l'a rencontré. Avec lui, elle est retournée sur les lieux de ce drame. On écoute son reportage et on retrouve Sophie tout de suite après. Avant de nous emmener sur le site de son ancienne prison, Soum Riti choisit de commencer la visite par ce qui est resté dans sa mémoire comme le comble de l'horreur. Un lieu présenté aujourd'hui aux touristes comme la ferme des crocodiles. L'ancien prisonnier revient sur les circonstances qui l'ont conduit à fréquenter ce lieu il y a plus de 30 ans.
Interview réalisée sur une passerelle qui surplombe deux bassins cernés par d'énormes crocodiles.
J'avais été amené ici afin de démonter une cabane et emmener le bois pour faire des baraquements destinés aux Khmer Rouges. Pour venir ici, il fallait un laissez-passer. J'étais même autorisé à me baigner dans le canal qui alimente les bassins aux crocodiles. Moi, je n'ai pas vu les prisonniers donner en pâture aux crocodiles, mais j'ai su que ce genre de choses se produisait ici, en entendant parler les fils du chef de la prison, qui avait 15 et 16 ans. Au centre de détention, je réparais les motos et j'entendais ces deux jeunes se vanter d'avoir vu les prisonniers se faire dévorer par les crocodiles.
Soum Riti est obsédé par la cruauté de ces deux témoins. Enrôlé dans l'armée en 79 après la chute du régime de Pol Pot, il avoue avoir cherché à ce moment-là à retrouver celui qui organisait ainsi le supplice des prisonniers. Il aurait voulu le tuer. Aujourd'hui, sa démarche est différente.
Je ne sais pas si le père, le chef de la prison, est encore vivant, mais je veux retrouver les fils. Je connais la femme du neveu du chef. Je voudrais en parler au juge d'instruction, car ces deux-là, ils savent plein de choses sur ce qui s'est passé. Les deux fils, ils étaient trop jeunes pour être tenus responsables, mais ce sont des témoins importants de ce qui s'est passé à la prison de Siem Reap.
En parlant de témoins, nous rencontrons le gardien à la sortie du zoo. La conversation s'engage entre lui et l'ancienne victime des Khmer Rouges.
Parmi les crocodiles qui étaient déjà là du temps des Khmer Rouges, vous savez combien il en reste encore de vivants?
1 millier environ. Celui-là, par exemple, il a 70 ans. Il y en a qui ont 40, 50, 70 ans. Ça dépend de la couleur. Et puis, il y a ceux qui sont nés depuis.
Est-ce que vous savez que les Khmer Rouges jetaient des prisonniers aux crocodiles?
Oui, je sais.
Ils étaient nombreux ?
Oui, très nombreux. Par exemple, les amoureux, les hommes et les femmes qui s'aimaient sans que l'organisation l'approuve. Ils étaient poussés dans le bassin.
Est-ce qu'il peut nous raconter qu'est-ce qu'il a vu exactement avec ses yeux ? Qu'est-ce qu'il a vu ?
Ce que j'ai vu, c'est que les soldats Khmer Rouges poussaient les gens dans le bassin pour les faire tomber. Et ça m'a fait très peur, alors je suis parti en courant. J'étais un gamin, j'avais peur qu'on me pousse aussi dans le bassin.
Est-ce qu'il en a déjà parlé à quelqu'un ?
J'en ai jamais parlé parce que personne ne m'a jamais rien demandé. À l'époque des Khmer Rouges et maintenant, c'est différent. Autrefois, on ne m'a rien demandé. Maintenant, si on me demande, je parle.
Le fait est que pour l'instant, la place de ce lieu dans l'histoire est totalement négligée. Trois jeunes touristes anglaises, arrivées là par le plus pur des hasards, ont bien voulu répondre à nos questions. Excusez-moi, je me demandais juste ce que vous veniez faire ici. Que savez-vous de cet endroit ?
La ferme des crocodiles ? Nous avons vu ça sur le plan de l'office du tourisme, c'est tout.
Vous ne connaissez pas l'histoire de ce lieu ?
Non.
Et vous, vous savez quelque chose?
Non, I just learned because I'm speaking with a
Oui, c'est une ancienne victime des Khmers Rouges qui m'a dit que l'on donnait les prisonniers à manger aux crocodiles. Donc, je me demandais si c'était un fait bien connu.
Oh, I was wondering if it was a thing that was well known or not.
No, we didn't know that. It's not very well publicized, this place, as it should be more.
Non, pas du tout. On ne peut pas dire que nous soyons bien informés sur cet endroit. On ne savait pas que les prisonniers servaient à nourrir les crocodiles ici par le passé. Si les gens savaient ça, ils seraient plus nombreux à venir voir. C'est comme les fosses communes, les Killing Fields à Phnom Penh.
They'll come more to see it.
Étape suivante, dans le nord de la ville, nous passons un porche et nous arrêtons devant une pagode aux couleurs vives.
À l'époque de Pol Pot, ils avaient réquisitionné la pagode pour y stocker des engrais. Et moi, je devais préparer l'engrais avec les excréments qui venaient de la prison et de la boue des rizières. Et le chef de la prison me forçait même à goûter le mélange et à mettre l'engrais dans le bâtiment. Comme j'avais très peur, j'obéissais à tout. Il me forçait à en prendre, rien que pour voir si j'étais dégoûté. Et comme j'appartenais au nouveau peuple du 17 avril, donc ennemi potentiel, alors il me donnait l'ordre de goûter l'engrais pour me tester, voir si j'obéissais. Si je n'avais pas obéi, il m'aurait tué.
Le peuple nouveau du 17 avril, dans le jargon des Khmers Rouges, ce sont les habitants qui se trouvaient en ville et qui n'avaient pas rejoint les Khmers Rouges avant leur entrée dans Phnom Penh le 17 avril 1975. Dès lors que Pol Pot arrivait au pouvoir, des millions de Cambodgiens étaient ainsi désignés ennemis potentiels. Sumriti en faisait partie. Dans l'enceinte de la pagode, nous sommes accompagnés par un jeune bonze.
Je suis le moine Chandat. Je suis venu étudier ici. Je suis originaire de Battambang. Je ne sais pas vraiment tout ce qui s'est passé ici, mais mon professeur m'a demandé de m'y intéresser. Je ne savais pas qu'il se passait ce genre de choses ici. Je sais seulement qu'il y avait le centre de détention juste à côté, qu'il a été détruit et qu'on a construit à la place le grand hôtel Soka.
Sumriti, lui, connaît bien les lieux et tient à nous faire rentrer à l'intérieur de trois maisonnettes au fond de la cour, derrière la pagode.
Venez, venez, les chambres d'interrogatoire, elles sont là-bas. Ces trois bâtiments au fond, je vais vous montrer. Chaque jour, 9 prisonniers étaient choisis. Et ici, il n'y avait qu'une issue, on était interrogés puis tués. En fait, dans la prison, juste à côté, chaque jour, il y avait environ 30 à 50 personnes qui mouraient de faim. Et moi, j'étais aussi chargé de venir ici, enterrer les cadavres à l'est de cette pagode. Quand j'apportais les cadavres ici, j'entendais les bruits qui sortaient des chambres de torture, les coups de bâton, les cris, les accusations. « Toi, est-ce que t'es un ancien militaire? T'étais agent de la CIA ?» Voilà, moi j'entendais ça pendant que je faisais mon travail et je faisais comme si de rien n'était.
Face au jeune moine, face à la jeune interprète incrédule, Sumriti ressent le besoin de supplier qu'on le croie. Non, il n'exagère pas, il en a tellement plus à nous raconter. Nous le suivons dans les anciennes chambres de torture. Il rentre dans les pièces, soulève les nattes et les tapis qui recouvrent le sol par endroits. Les bonzes essaient de le renseigner.
Ici, c'est le bureau de Progne. Il s'occupait des listes des prisonniers et dirigeait les interrogatoires. Un jour, je suis venu chercher ici un homme mort sous la torture. Avant, on pouvait encore sentir l'odeur du sang, mais ça a été nettoyé.
Dans cette pièce, il y avait du sang partout. Là, c'est la cuisine. Il y avait du sang jusque-là. Les bonzes ont essayé de nettoyer. Au début, personne ne voulait venir dormir ici. Dans les années 80, il y avait un bonze qui a installé son bureau ici, mais il préférait dormir dehors. Il venait y prier un peu, mais personne ne souhaitait rester là, ça fait peur. À partir des années 2000, les bonzes sont finalement revenus dans ces locaux.
Regardez, c'est là qu'il y avait beaucoup de taches de sang.
Il est en train de faire retourner la paillasse du lit, il est en train de chercher sous le lit qui est installé dans cette petite pièce où il y a eu des tortures pour chercher les traces de sang parce que lui il sait qu'on les voit encore.
Il y a une tache sombre là.
Oui, c'est du sang que l'on ne peut pas nettoyer. Il a pénétré le carrelage.
L'obstination de Soumriti à nous montrer les taches de sang crée un certain embarras devant les taches. L'ancienne victime relève d'ailleurs sa chemise et montre son dos, là où il a reçu des coups de bâton pour avoir un jour dérobé les restes d'un fruit oublié par terre par un soldat Khmer Rouge. Soumriti porte d'ailleurs sur son corps les marques de la torture. Son teint est assez foncé, mais ses mains et ses bras sont tachés de rose. La peau est dépigmentée.
Mes brûlures, là, c'est du potage brûlant qu'on m'a renversé dessus. La soupe bouillante était transportée dans des bidons en fer, suspendus à un bout de bois qu'on transportait à deux. Moi, j'étais devant et mon ami derrière. Le Khmer Rouge a poussé mon ami pour que le bouillon me tombe dessus et me brûle. C'était fait exprès car il détestait les gens qui n'étaient pas Khmer Rouge. Je me souviens de son nom, c'était Som. C'était un homme cruel, il aimait torturer, tuer les gens. Parmi les soldats Khmer Rouge, il y avait Som le Grand et Som le Petit. C'est le grand qui était cruel.
En 1979, Soumriti a tout fait pour retrouver Som. L'armée lui permettait de porter une arme et il aurait voulu s'en servir contre son ancien bourreau. Mais il ne l'a pas retrouvé. Et aujourd'hui, il nous dit que s'il le retrouvait, ce serait pour le traduire en justice. Seulement voilà, la justice, Soumriti commence à en douter. Une quarantaine de victimes seulement ont vu leur plainte enregistrée. Soumriti en fait partie, mais il n'est pas satisfait du travail accompli jusque-là.
En octobre dernier, nous sommes venus ici 3 jours avec mon avocat Khmer, mais pas avec l'avocate internationale qui est censée me représenter. Elle m'a dit qu'elle était trop occupée, qu'elle ne pouvait pas venir ici. Moi, j'aurais pensé que c'était une obligation pour elle de venir voir ce que son client a à lui montrer. Comment faire pour défendre ma cause si elle ne connaît pas la vérité sur ce qui s'est passé? Je suis vraiment déçu.
Nous avons fait ce voyage en compagnie d'une juriste internationale spécialisée dans l'action humanitaire et particulièrement intéressée par le traitement réservé aux victimes tout au long de cette procédure. Linda Ferhat Partouche, intéressée par l'histoire de Soumriti, se montre fort étonnée du peu d'attention dont il fait l'objet.
Si on se situe dans le cadre d'une procédure normale, je ne vois pas comment elle peut constituer un dossier conséquent de son client, de M. Reti, sans verser à ce dossier, sans être venu sur place, constater... c'est là où le préjudice a été commis pour lui. C'est là les lieux du préjudice. Donc c'est là que sont les lieux des préjudices et des requêtes et éventuellement des réparations, des preuves.
De la pagode, à côté de l'ancienne prison, Soumriti souhaite aller se recueillir devant un tas d'ossements, amassés dans une sorte de cabanon ouvert à tous les vents.
Chaque jour, les bonzes déposent ici des offrandes pour les morts et je leur en suis très reconnaissant. Je les remercie beaucoup pour ces victimes, car elles sont mortes les yeux ouverts, à cause de la faim. Il n'y avait pas d'eau, pas de riz pour elles. Mais de jour en jour, ces ossements tombent en poussière. La dernière fois que je suis venu, le tas était beaucoup plus haut.
Bon, là, on voit qu'il y a aussi des ordures, quoi. Il y a des sacs en plastique qui sont quand même pas très bien conservés, quoi.
C'est pour cela que je demande que l'on fasse ici comme à Tuol Sleng, pour que ce lieu soit mieux entretenu.
Nous arrivons au terme de notre voyage. Soumriti a consacré 2 jours à nous montrer les lieux incontournables du drame qui s'est joué ici à Siem Reap, comme dans de nombreux autres lieux du Cambodge. Mais il est un portail qu'il a refusé de franchir, celui d'un hôtel de luxe, l'hôtel Soka, érigé en lieu et place de son ancienne prison.
Je pourrais y aller un jour, mais pas pour l'instant. Je ne supporte pas. Je pense aux souffrances que j'ai connues ici. Plus tard, peut-être. En plus, aujourd'hui, vous voyez bien, il y a des voitures officielles, des gens importants. Non, je ne veux pas y aller. Peut-être un jour, quelqu'un m'y emmènera. Mais pour l'instant, entrer dans cet hôtel m'est insupportable.
Cela n'entame en rien la volonté de l'ancienne victime des Khmers Rouges à obtenir gain de justice. Malgré la peur et contre l'avis de sa famille, Soumriti s'est constituée partie civile. Possibilité lui est offerte de comparaître masqué, mais il a choisi de se présenter au tribunal à visage découvert. Reportage de Sophie Malibo au Cambodge, 30 ans après la chute du régime Khmer Rouge, avec Marc Minatel à la réalisation.
Bonjour Sophie Malibo.
Bonjour.
C'est vraiment un témoignage unique que vous nous livrez avec ce survivant de l'horreur, Soumriti. On imagine que pour obtenir ces 15 minutes de reportage, vous avez parlé des heures avec lui. Est-ce qu'il vous a dit comment il se sentait aujourd'hui et comment il arrivait à se reconstruire ?
Oui, alors effectivement, c'est quelqu'un qui va pas très bien aujourd'hui. Il en est malade physiquement, ça se traduit physiquement. Il en a des ulcères et il est terriblement angoissé. Vous dites, on a parlé des heures, c'est tout le temps lui qui parlait. Il était absolument impossible, très difficile de l'interrompre. On a fait 6 heures de trajet en bus entre Phnom Penh et Siem Reap, où il m'emmenait justement sur le lieu de sa détention. Et pendant ces 6 heures, je ne pouvais pas l'interrompre. Et même au restaurant, si vous voulez, quand le serveur vient prendre la commande, à la fin d'une journée qui avait déjà bien lourde en témoignages assez durs, pendant la commande, il continuait à raconter la façon dont il était attaché, les couteaux pleins de sang qu'il avait trouvés dans l'arrière d'une voiture, des choses comme ça. Et à ce moment-là, d'ailleurs, aussi, ça allait très loin, mais il nous parlait des fantômes aussi. C'est quelque chose qui revient assez souvent, cette crainte des fantômes. Il parle des fantômes qui apparaissent aux abords des temples d'Angkor, là où il avait vu enterrer des soldats de Lon Nol dans des fosses communes près des grands bassins des temples d'Angkor. Alors,
Et il en est malade, vous nous le dites, mais en même temps, il veut avancer sur le terrain judiciaire. Il a porté plainte, donc plainte enregistrée en 2004. Vous l'avez rencontré dans les derniers mois de 2008. Pourquoi est-ce qu'il a autant attendu pour témoigner ? Est-ce que cette parole-là intéressait quelqu'un au Cambodge ces dernières années ?
Il ne trouvait pas d'oreille attentive, à commencer par sa propre famille, puisque comme lui, il ne savait pas très bien écrire. Et il a demandé l'aide de ses enfants, de l'aîné d'entre eux, et qui, en fait, écrivait des paragraphes de choses absolument horribles, sans poser la moindre question. Donc déjà, ça commençait par sa famille. Ensuite, sa famille l'a même dissuadé. Son épouse, il n'a pas voulu que je rencontre sa famille. Sa famille était contre le fait qu'il aille se présenter au tribunal, contre le fait qu'il parle aux journalistes. Et lui disait, mais moi, quand j'étais aux mains des Khmers Rouges, je m'étais juré que si je m'en sortais, je ferais tout pour que le monde entier sache ce que j'ai vu. Parce qu'il avait cette position un peu privilégiée, entre guillemets, qui fait qu'il pouvait circuler, contrairement à d'autres prisonniers. Et donc, il voyait des choses vraiment encore plus atroce, puisque lui-même aussi allait enterrer des cadavres, comme il le racontait dans le reportage.
Vous me disiez tout à l'heure que même celle qui vous a servi d'interprète pendant ce reportage était sidérée par ce qu'elle entendait, donc dans la bouche de Soumriti. C'était une vraie découverte pour elle.
Tout à fait. Elle aussi en était malade, puisque même elle est sortie pendant le dîner, portait pas bien du tout, notamment aussi l'interview au-dessus de la fosse aux crocodiles. Elle était très mal après ça. Et on a l'impression qu'elle découvrait vraiment l'histoire au fur et à mesure, plus il racontait. J'avais aussi un peu de mal à faire qu'ils ne communiquent pas directement entre eux en Khmer et qu'ils repassent par moi et que je comprenne les propos qui s'échangeaient, parce qu'ils finissaient par nouer un contact direct, cette jeune de 21 ans et lui 53 ans. Et elle avançait comme ça dans sa découverte des massacres perpétrés par les Khmers Rouges.
Merci Sophie Malibo et ce grand reportage aux côtés d'un survivant du génocide cambodgien est bien sûr à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Demain, grand reportage sera dans les Landes, en France, où la tempête de ces dernières semaines porte un coup très rude à l'industrie du bois.